Le maire Marchand est de retour de sa pneumonie. Puis quand le maire est de retour, Pascal CV, ça bouge pas à peu près à l'hôtel de ville.
La vidéo d'hier de son retour à l'hôtel de ville, ça a fait couler de l'encre pas à peu près.
On va commencer avec ça, tiens, vu que tu dis ça, parce que je veux savoir, je veux entendre Alicia Despins là-dessus. On va tout simplement la saluer pour commencer. Oui. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, j'ai un petit truc dans la gorge, là. J'espère que moi, j'ai pas une pneumonie.
Oui, c'est ça, parce que sinon, on va être obligé de te perdre et surtout de te faire une vidéo qui est une parodie du Diable s'habille en Prada avec Bruno Marchand. On écoute et puis je vais vous la décrire en même temps. All right, everyone, gird your loins. Là, Bruno débarque de la voiture avec ses souliers de course bleus. Oh là, c'est le bordel à l'hôtel de ville. On est en train de tout ramasser. Le chef revient. Et là, il sort de l'ascenseur et enlève ses lunettes fumées. Alicia, au-delà de la vidéo qui, premièrement, est juste en anglais, que je trouve particulier dans la capitale nationale, au-delà de cette parodie-là, je trouve qu'il y a un fond de vérité là-dedans, savoir que quand le maire n'est pas là, on dirait qu'il n'y a rien qui avance. Puis quand il est là, là, tout va à vitesse grand V. Coudon, on lui reprochait de ne pas faire confiance à personne dans son équipe. On commence à croire que c'est vrai.
Et puis, on en a parlé sur toute la question de dire, quand le maire n'est pas là, il y a une opportunité de mettre les gens de son équipe de l'avant, de les sortir, de les mettre en valeur, de montrer qu'ils ont en maîtrise de leur dossier et qu'ils sont aussi solides. Le maire Marchand le dit souvent, j'ai une équipe, etc. Il s'est vanté de ça. Donc, il y a un peu cette opportunité-là perdue à travers son absence dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Mais effectivement, moi, je ne mettrais pas cet élément-là de l'avant, de dire, bon, mais ben, quand le maire est parti, les souris dansent, là. Mais c'est une préoccupation, ça, qui est très légitime. Puis, c'est pas nouveau. Quand Régis Labeaume est parti pour son cancer, une des grosses affaires à l'interne à l'hôtel de ville, c'était de dire gang, il n'y en aura pas de lousse, il n'y a personne qui va s'asseoir sur ses lauriers, c'est pas parce que Régis n'est pas là qu'on va ralentir la cadence. On va tout faire pour que ce soit exactement comme si Régis est encore là. Donc, c'est tout le temps un peu compliqué parce qu'effectivement, ça reste le capitaine d'un bateau. Puis, quand le capitaine n'est pas là, ben des fois, c'est plus difficile là, d'avoir des orientations qui sont claires.
Mais de se présenter en espèce de rock star comme ça, là, alors qu'il dit « Hey, j'aime pas ça qu'on parle de ma vie privée, de ma vie avec ma conjointe », je trouve que c'est parler des deux côtés de la bouche. Me trompes-tu?
Oui, il y a une mise en scène, puis c'est une mise en scène non pas du travail de maire ou du travail de la ville ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on le sent que c'est vraiment une mise en scène de lui-même. Donc, il se projette comme étant un personnage dans cette vidéo-là. Moi aussi, je suis très mitigée par rapport à ça parce que si on se pose la question, à qui ça s'adresse, cette vidéo-là? Mettons qu'on revient, là, qu'on analyse ça de manière super objective, théorique, c'est qui le public de cette vidéo-là? C'est une vidéo qui est publiée sur Facebook. À ma connaissance, le maire Marchand n'est plus sur TikTok là, depuis la controverse de la sécurité de la plateforme pour les élus. Puis on sait que les jeunes sont plus sur TikTok, sont pas mal moins sur Facebook. Et pourtant, mais tous les codes de cette vidéo-là, avec la référence, tu nous as parlé de la sortie du film « Le diable s'habille en Prada », le montage, la musique, tu sais, très style TikTok. Vidéo très courte. Dans le rendu, je trouve que ça semble vraiment s'adresser davantage aux jeunes. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence ici entre le format du message, le message qui est un peu là, ambigu aussi, et le public à qui ça s'adresse, là, qui sont des personnes un peu plus âgées là, globalement sur Facebook.
En effet, je suis clairement d'accord avec toi. Bon, le maire est revenu, puis c'est chicané que le maire Junot encore. Puis là, ben, il faut plaider coupable, Alicia et Pascal. C'est notre journaliste Mathias Turcotte qui a parti à chicane. Maudit Mathias sur le terrain qui va poser des questions. Ça n'a-tu pas d'allure? Il a posé la question au maire Marchand, Alicia. Il a osé poser cette question-là. Pourquoi le ménage du printemps n'est pas commencé à Québec quand il est commencé depuis 3 semaines à Saint-Augustin? Et voici la réponse du maire Marchand.
Vous n'avez pas vraiment besoin que je réponde à cette question-là?
Oui. Mais je vous la pose.
Entre un village et une ville, ça ne se gère pas pareil. OK? Si vous me comparez Saint-Augustin à Québec, puis vous me dites que c'est les mêmes défis à Saint-Augustin qu'à Québec, que c'est la même grandeur de ville, c'est la même quantité de rues, Je sais pas ce que je peux vous dire pour faire la comparaison. Là.
Je vous dis pas que c'est la même quantité de rue. Ce que je vous dis, c'est que c'est
il une représente 2,5, à peu près 2,5 % de la population de l'agglomération. On représente 95 %. Je pense que les défis sont pas les mêmes.
Bon, pas qu'on aime la chicane à Boulevard, Alicia. Pas du tout, hein, Pascal? Nous, non. On n'aime pas ça. Mais on aime démontrer les deux côtés de la médaille. Alors, on a invité Sylvain Junot ce matin, 7h30 dans Marceau le matin, et voici sa réplique.
Juste corriger une chose, ça fait pas 3 semaines là, qu'on fait du nettoyage de rue, ça fait 5 semaines.
Ah, ouais, on a commencé
à faire du déglaçage, là, pouvoir passer le balai de rue plus rapidement.
Ah, vous faites ça là-bas, vous autres?
Oui, on
enlève toute la glace. Vous attendez pas que ça
fasse? Ben non, parce que ça permet justement des journées comme aujourd'hui, quand les puisards sont pleins de feuilles et de cochonneries, ça bouche, ça refoule, ça finit dans le sous-sol.
Ouais.
Puis le mandat d'une ville, ben, c'est de s'occuper des choses de base, dont pas d'eau dans le sous-sol, idéalement. Ça, c'est pas rêver, c'est travailler.
Pourquoi?
Les discours là, chez nous, là, c'est l'ouvrage qui compte.
Bon, on remarque que le maire Junot ne mentionne pas encore le nom du maire Marchand. On en a déjà parlé, c'est sa stratégie. Mais n'empêche que, tu sais, il y a plus de cols bleus à Québec, il y a plus de machinerie, on est divisé en arrondissements. T'sais. Moi, le maire, il me convainc pas quand il traite Saint-Augustin de village.
Ben, c'est surtout que ça répond pas à la question. Il y aurait eu moyen de répondre à la question en disant « c'est pas comme ça qu'on fonctionne à Québec, je sais pas, trouver une autre explication ». Mais là, on dirait que le maire Junot a mis ça dans l'univers, puis il savait sur quel bouton peser, puis ça a fait réagir le maire Marchand. Là. Donc, c'est ça, ça a marché sa stratégie. Là.
C'est ça, mais là, le maire réagit pas de la bonne façon, puis je trouve qu'il perd de la notoriété puis de la crédibilité.
Ben oui, mais on se souvient, ça n'a pas commencé là, là. Tout ça, là, il y a quand même il y a un historique qui s'en vient assez long et assez lourd, franchement, là, dans tout ça. Donc, on le sent qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel entre ces deux personnes-là, ces deux maires-là, qui jusqu'à récemment siégeaient sur plusieurs comités ensemble, qui en théorie devraient collaborer pour. Parce qu'il y a plusieurs services qui sont communs à la ville de Québec puis à la ville de Saint-Augustin. Mais une des premières actions du maire Marchand à sa réélection en novembre-décembre de l'année passée, ça a été d'expulser Sylvain Junot de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, clairement, ça a commencé avant ça. Il y avait des raisons personnelles. Il l'a dit. Il a dit « c'est mon choix, c'est lui qui a décidé d'exclure ce maire-là ». Il n'a pas tenté de s'en cacher. Là. Donc, puis depuis ce temps-là, ben, Junot est de plus en plus ouvert dans ses critiques de la ville de Québec, établit un contraste entre les deux villes, veut vraiment mettre sa ville à l'avantage. Puis l'utilisation du mot « village » par M. Marchand, on sent que c'est très intentionnel. Là. Il y a quelque chose, là, comme s'il réplique, là, puis il veut aussi lui piquer Sylvain Junot. Mais j'ai l'impression que Sylvain Junot, sa stratégie est assez claire. Marchand ne réussira pas, je pense, là, à le faire réagir fort là, comme lui le fait. Là.
Ah, en effet, je suis convaincu de ça. Tramway de Québec, parce que c'est justement un point de litige entre le maire Marchand et le maire Junot. On parlerait d'une grosse annonce en infrastructure, entente entre le fédéral et le provincial la semaine prochaine, et ça bouclerait le financement du tramway. Honnêtement, Alicia, je le souhaite. Comme ça, on va pouvoir regarder en avant. Puis là, s'attarder à d'autres problématiques dans la ville. Puis c'est là qu'on va voir vraiment de quel bois se chauffe Respect citoyen.
Exact. Je pense que c'est vraiment... Je fais la même lecture que toi. Tu sais, Bruno Marchand assure que les discussions vont bien. Là, on sent que c'est un peu comme la dernière chance. Là. Puis Stéphane Lachance en a parlé, de Respect citoyen, dire « ça fait plusieurs fois que les ministres nous disent que ça va bien. Ça fait plusieurs fois, là, à un moment donné... » il va falloir que ça se passe là, pour vrai. Effectivement, de venir boucler le projet, ben là, on pourrait avoir des débats plus constructifs sur autre chose, sur les prochaines étapes, sur la station Grand Théâtre, sur la coupe d'arbres. On peut continuer d'avoir des débats sains et constructifs là-dessus, mais c'est sûr que tant que le financement n'est pas clair, il n'est pas ficelé complètement, ça donne des munitions, puis on n'avance pas. On sent que la ville avance, la RTC avance, la CDPQ avance, mais reste qu'ailleurs dans la société, c'est difficile de se faire une idée claire d'où ce projet-là est. Moi, je sais pas à quel point il faut lui mettre peut-être le potentiel là, résultat à son actif, mais je trouve que Christine Fréchette a vraiment bien joué ses cartes là, depuis son élection, puis elle était capable de contribuer à boucler le financement de ce dossier-là avec le fédéral bientôt. Ce serait encore une fois une démonstration là, de, de sa proactivité.
Ben, c'est ce qu'on ressent. Là. Je pense que Bernard Drainville, en entrevue sur nos ondes récemment, allait tellement en ce sens-là quand c'était pas nécessairement son... c'était pas du tout son but, lui, lorsqu'il était à la course à la chefferie de la CAQ. Tout le monde s'est rallié, probablement pour un dénouement, là.
Mm-hmm. Exact. Puis ça, ça fait partie, je pense, mettons qu'il y a une pile, mettons qu'il y a un bureau à l'Assemblée nationale de tous les dossiers qui n'avancent pas, qui deviennent tannants, qui sont sur la glace, qu'il faut dénouer. Celui-là, il est peut-être dans le haut de la pile. Puis j'ai l'impression que Christine Fréchette, finalement, son mandat, c'est de venir dénouer toutes ces affaires-là au fil des prochaines semaines, avant l'élection, pour être capable d'avoir en quelques semaines, en quelques mois à peine, un leg, finalement, là, un bilan positif à son actif. Puis ça, ce serait une très grande victoire.
En effet, puis la Capitale-Nationale a clairement besoin d'un bilan positif à l'heure actuelle, au moins une infrastructure qui avance. Parlant d'infrastructure qui avance, les Trudel, la famille Trudel, sont en feu, sont en train de revitaliser Vanier, les Galeries Charlebourg, Place 4 Bourgeois. Là, on parle d'un édifice de 40 étages pour Vanier. Tu as été conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Tu vois ça comment, le développement de Place Fleur-de-Lys?
Oui, puis j'ai eu la chance, c'est très rare hein, comme conseiller municipal au Québec qu'on a la chance finalement de contribuer ou d'avoir l'impression de contribuer au développement d'un nouveau quartier. Mm-hmm. Les Fleurs-de-Lys, c'était juste un vieux centre d'achat bétonné avec pas grand-chose.
C'est un vieux parking lettre, là, on va se le dire.
Ça a connu les meilleurs jours.
Avec encore une affiche de l'abbé qui n'existe plus. Puis là, au moins, on a fait l'Université du Québec à Trois-Rivières, des pavillons à la place du CIRS.
Je pense que Zeddy se promenait encore, mais ça, c'est la rumeur.
c'est vraiment super, super enrichissant, super le fun de pouvoir contribuer à ce qui va devenir le quartier de demain. Évidemment, on a des outils urbanistiques aujourd'hui, on a des sensibilités différentes, on ne construit plus de la même façon. Si on avait à reconstruire Vanier aujourd'hui, on ne ferait pas Wilfrid Hamel, là, c'est une verrue urbaine, là, Wilfrid Hamel. Puis en plus, on a des nouveaux enjeux. On a les enjeux l'enjeu de la densification. À un moment donné, on ne peut pas continuer d'étaler la ville. On a l'enjeu de la pénurie de logements, donc il faut ajouter au parc immobilier. Oui, 40 étages, oui, ça frappe l'imaginaire. Je pense que ce serait plus haut. Si c'était 40 étages, je pense que ce serait plus haut, même si Vanier est plus bas que le centre-ville, ou à peu près, là, que le complexe G, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Mais bref, ce serait visuellement assez, ce serait nouveau, disons, là, dans l'horizon, dans le paysage de la ville de Québec. Mais globalement, je pense que c'est vraiment, ce serait vraiment une bonne nouvelle là, de pouvoir faire en sorte que ce projet-là se passe. Le débat, je ne suis pas certaine qu'il va vraiment se tenir sur le 40 étages, entre 30 puis 40, pour vrai, des fois, dans les perspectives. Je ne pense pas que c'est là que ça va jouer. Je pense que ça va jouer sur la question de la circulation, le trafic.
En effet.
Il va falloir que le ratio auto par habitant de ce quartier-là soit pas mal plus bas, assurément en bas de 1, pas mal plus bas que la moyenne actuelle à Québec, que ce soit viable. Fait que plus de transports en commun, plus de transports actifs, du communauto en masse, etc. Puis le deuxième enjeu qui vient me toucher, moi, personnellement, pour lequel j'ai développé une très grande sensibilité comme conseillère municipale 8 ans à Vanier, c'est la question de la gentrification. Vanier, c'est un quartier qui est mixte. Il y a des poches de population défavorisées. C'est une des seules places encore aujourd'hui à Québec, dans le centre de la ville, où tu peux encore avoir des logements à un prix abordable, correct. Là. Il y a des organismes, des conseils de quartier. Je sais que le président du conseil de quartier, Vanier, Pierre-Marc Doucet, va être très à l'affût de ça. Puis en même temps, je pense que ce qui fait la différence, bien, c'est la proximité des Trudel dans la communauté. Tout le travail qu'ils ont fait en amont, ils sont très conscients de ça. Ils ont fait des consultations, de la co-création. Ils ont démontré leur sensibilité sociale. Fait que ça, je pense que ça va faire la différence là, auprès des citoyens.
Clairement, des beaux programmes de concertation justement avec les citoyens, des espaces verts qui sont construits à même leur quartier. Donc, c'est vraiment positif par rapport à un vieux parkinglet comme Fleur-de-Lys. On termine, Alicia, avec... une autre perte d'une résidence pour personnes aînées, d'un RPA à Québec, ça fait quoi? 5 ou 6 depuis 2023? Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter?
Je pense que ça fait plus que 5 ou 6 parce que c'est le troisième cette année.
C'est
troisième en 2023. On a eu 3 fermetures en 2025. Puis là, je te ramène en 2023. Il y avait eu des fermetures. Il y avait une vague aussi de reconversion, donc de rachat des RPA, mais de reconvertir en condo. Donc, pas nécessairement là, pour des personnes aînées là, qui ont besoin de services. Puis en 2023, le maire Marchand, face à ça, évidemment, il avait été sollicité par les organismes, par le CIUS, etc. Puis il avait dit qu'il s'activait à trouver des solutions, que son équipe préparait un portrait des RPA à Québec, qui allait présenter ça aux élus dans les semaines à venir avec des solutions potentielles, etc. Mais on n'a jamais entendu parler. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai vu ça, cette nouvelle-là, dans le Soleil, dans Radio-Canada, un reportage de Flavie Villeneuve, 99 aînés qui vont devoir se relocaliser d'ici l'automne. Je pense, oui, c'est un dossier complexe, mais il faut vraiment se repencher là-dessus. Là.
Écoute, on en parle depuis 2-3 jours, mais c'est une 3e résidence, on le disait aussi, et notre population est vieillissante. Là. La question, la première, là, c'est où est-ce qu'on les place demain? Pas dans 5 ans, demain.
Exact, ouais.
Ils n'ont peut-être pas de famille, là. Ils n'ont peut-être pas de proche aidant. C'est où que ces gens-là se ramassent demain? RPA, il y en a qui sont capables d'être autonomes. C'est-tu du monde qui vont se ramasser dans la rue? On est-tu en train de regarder pour vrai le profil de ces gens-là puis essayer de les aider? On a-tu des mesures à la ville, Alicia, réelles pour les aider en one-on-one? Parce que c'est ça qu'on va devoir faire, même s'ils sont 99, là.
Bien, tu sais, il y a l'OMHQ qui travaille très fort, qui fait ce travail-là, justement, d'accompagner des gens qui perdent leur logement. Ça fait partie de leur mandat, mais la réalité, c'est qu'ils sont aussi débordés par tout ce qui se passe ailleurs dans la ville. Fait que c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on avait des logements pour ces personnes-là, on manque de logements pour tout le reste du monde. Puis là, ben, on fait juste rajouter à la population de gens qui manquent de logements. Mais en plus, c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes aînées qui ont besoin de services. Tu ne peux pas juste les remettre dans un appartement. La plupart du temps, je pense que c'est le tiers ou la moitié de ces aînés-là qui ont des services à chaque semaine à part du CIUS. Donc, tout ça, il faut que ce soit organisé. Il y a du personnel qui est là à la résidence. Donc, ce ne sera pas évident pour ces gens-là. Moi, je leur souhaite de pouvoir se trouver une autre place en résidence rapidement. J'espère que où ils sont actuellement, ils vont quand même avoir là, des services pour aider à les relocaliser. Mais ça reste que, tu sais, puis je me mets à leur place, là, tu as vécu toute ta vie, tu essaies juste d'être tranquille, puis d'être en paix, puis tu sais, profiter de la vie. Mais c'est un épisode pas mal stressant pour eux.
Ah,
là,
vraiment?
On dirait que ça vient me chercher, là, ça vient chercher une fibre.
Ah,
là.
Ça vient vraiment chercher la population en général. On se souvient, lors de la COVID, François Legault avait dit « on va prendre soin de nos aînés ». On est un peu loin de ça. Alicia Despins, merci. C'est un superbe tour d'horizon de ce qui se passe et ce qui se brasse en politique municipale. On se reparle la semaine prochaine.
À la prochaine. Bonne journée.
Salut, salut. Bonne journée. Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. On en jase.